On est au module 9. On commence un nouveau module aujourd'hui. Alors, le Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo Bhagavate
Pas Vayam, Vaya.
Vasudevaya.
Ah, ok, j'entends toujours Vayam, je sais pas pourquoi. Bon, ok.
Attention.
Ananda, voulais-tu lire, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Dominateur et dominé. Tous les êtres en ce monde, de Brahma jusqu'à la plus petite fourmi, veulent dominer la nature. C'est ce qu'on appelle la fièvre matérielle. Tant que cette fièvre n'est pas tombée, l'être vivant reste assujetti au cycle de la transmigration, tantôt déva, tantôt homme ou animal. Et lors des grandes dévastations, à la fin de chaque jour de Brahma et à la fin de sa vie, il sera plongé dans l'état non manifesté. Pour mettre fin à cette répétition de mort et de renaissance, et à leur corollaire, la vieillesse et la maladie, nous devons essayer d'atteindre les planètes spirituelles pour y vivre auprès de Sri Krishna et de ses innombrables émanations plénières, les Narayana. La souveraineté de Krishna et de ses émanations sur ces planètes est confirmée par les Shruti mantras dans ces termes. Eko Vashi Sarva Gaha Krishna Idya, Eko Pishan Bhu Uda Yo Vabati. Gopala Tapani Upanishad 1.3.21. 9.1. Tous les êtres en ce monde, de Brahma jusqu'à la plus petite fourmi, veulent dominer la nature. C'est ce qu'on appelle la fièvre matérielle. Un des thèmes les plus répétés de Srila Prabhupada est sans doute celui de l'être vivant en proie au désir de dominer la nature. Il est très important pour un aspirant dévot de comprendre ce concept. 1. S'il est toujours sous l'emprise de cette souillure matérielle. 2. En comprendre la racine, c'est-à-dire la cause profonde du problème. 3. Comment s'en affranchir une fois pour toutes. À la fin, nous vous présentons une classe de Srila Prabhupada qu'il donna le 1er janvier 1969 à Los Angeles sur la Bhagavad Gita 3.31.43. Tamala Krishna, nous lisons un
Attends,
extrait.
attends, attends, attends. Merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare
Sri
Krishna.
Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, il y a une note en bas de page. Je pense, pour se donner une idée, là. C'est une réflexion de ma part sur qu'est-ce que le concept, justement, le désir de dominer la nature. Alors, on pourrait lire ça avant de s'embarquer dans la lecture. La classe de Prabhupada, s'il vous plaît.
Parfait. Nous nous sommes demandé que peut bien sous-entendre l'expression dominer la nature. Suite à notre réflexion sur le sujet, en voici quelques produits dérivés. L'envie d'exploiter égoïstement des ressources à des fins personnelles ou collectives, nous procurant ainsi l'illusion de tout contrôler, dominer autrui, posséder coûte que coûte, soi-disant propriété et droit ou non de posséder autrui, imposer sa volonté et infliger souffrance à autrui, abus de pouvoir, soigner son image par pur faux ego, sexe illicite et politique, guerre froide et chaude, toute activité illicite et irreligion. Bref, la domination de la nature matérielle peut prendre mille et une formes. Elle est subtilement ou grossièrement au cœur même de tout ce qui se passe dans le monde matériel. L'énergie matérielle nous garde prisonniers de son emprise en nous plongeant dans ce qui nous ne regarde pas en tant que pure âme spirituelle, n'ayant rien à voir avec le monde matériel, si ce n'est de tenter de le dominer. En fait, l'âme pure est censée agir dans la conscience de Krishna de par sa position constitutive, originelle et s'en tenir là. À cet effet, elle peut utiliser l'énergie de Krishna pour Krishna, indifféremment que cette dernière soit matérielle ou spirituelle. Telle est l'application pratique de la conscience de Krishna à son meilleur. Tout est dans l'intention, au fond, de tout utiliser à seule fin de plaire à Krishna, et ce, délibérément sous la direction d'un maître spirituel compétent. Tel est ce qu'on appelle le karma yoga, ou agir dans la conscience de Krishna. Voir annexe 1 pour la suite.
Bon, on va pas aller à l'annexe 1, là. Est-ce que des questions, des commentaires?
Juste une petite question sur, au début, il dit, l'être non manifesté, quand on n'est pas manifesté, sur quelle forme, ben, dire, l'être, il est, est-ce qu'il est présent dans l'univers ou il y a une... je saisis pas encore le non manifesté.
C'est bon, quel... alors ça, c'est le genre de question et la réponse va être, à donner un exemple. De qu'est-ce que ça veut dire être dans un état non manifesté. Alors, ce n'est pas ma réponse. J'ai pas d'expérience là-dedans, là, expérience directe par les sens. Mais si on se réfère au Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, si je ne m'abuse, au cinquième chapitre, Narada Muni raconte son histoire. Comment il est devenu le Narada Muni que l'on connaît? Alors, il était né dans une époque lointaine, comme le fils d'une servante, et il a eu la bonne fortune de servir des purs dévots, manger même leur restant de nourriture, de prasad, et il s'est purifié. Et ça lui a donné un goût pour la spiritualité, la vie spirituelle. Et puis, à un moment donné, sa mère est décédée par l'arrangement de la Providence. Et là, lui était un petit bonhomme de rien. Et il s'est mis à voyager. Il a été partout. Puis un de ses bons jours, il a dû quitter son corps. Et... il raconte qu'à un moment donné, il y a eu justement une, comment on appelle ça donc, un état non manifesté du monde matériel dans lequel il a été absorbé dans le corps du Seigneur Vishnu ou Narayan, là, peu importe là. Mais l'état non manifesté, c'est cet état où on n'a pas de corps matériel, on est absorbé dans le corps de Dieu. La personne suprême. Ça, c'est ce que je retiens du Srimad Bhagavatam comme exemple. Alors, ça serait à vérifier pour plus de détails, premier chant. Et si je ne m'abuse, c'est cinquième chapitre du premier chant, Srimad Bhagavatam. Ça répond à la question? Alors, c'est, comme c'est dit ici, ça fait partie de la vie conditionnée que justement on est quand il y a un état de la création matérielle qui est non manifesté, les êtres vivants sont absorbés dans le corps de Dieu, mais elles ont tout autant leur désir d'agir, disons. Comme elles le veulent bien. Et c'est lorsqu'il y a une création que les êtres vivants ont la chance de satisfaire leurs désirs. Alors, il y a un état de la matière qui est non manifesté, puis manifesté, mais pour ceux qui sont vraiment en connaissance, Il ne voit pas la création matérielle du point de vue du désir des entités vivantes. Il voit plutôt le désir de Dieu, la personne suprême. Et ce désir-là, c'est que Dieu crée la manifestation cosmique pour donner une chance aux êtres vivants d'adopter la pratique du service de dévotion et retourner à Krishna. Parce qu'en quelque part, il faut que l'âme conditionnée se remette à servir Krishna. Alors, Si elle est dans le monde matériel, ben, il faut qu'elle utilise l'énergie matérielle au service de Krishna. Ça, c'est ce qu'on appelle le service de dévotion. Et personne ne peut faire du service de dévotion sans un maître spirituel pour le guider. En fait, c'est un maître spirituel qui guide l'âme conditionnée pour retourner à Krishna éventuellement. Et l'activité qui est enseignée à l'âme conditionnée, ben, c'est le service de dévotion. Est-ce que ça répond à la question? Plus ou moins? En tout cas, c'est la réponse que je peux donner, là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est sûr qu'il y a des dévots qui pourraient vous donner des explications plus complexes, de long en large, mais ça, c'est pas mon genre. Il y en a qui vont peut-être faire une recherche sur Internet et puis voir qui parmi les dévots peut donner des explications, comment on peut dire, très poussées sur le sujet. Mais moi, c'est pas mon genre. C'est à quoi ça va servir? L'état manifesté, non manifesté, va au plus direct, au plus simple. Go back to Godhead. Chante avec Krishna. Retourne à Krishna. Et puis, on se reverra là-bas, voir, on s'en reparlera une fois rendu là-bas. Alors, voilà. Alors, il y a un point très important quand même. La première ligne, là, de ce qu'on a lu aujourd'hui. Un des thèmes les plus répétés de Srila Prabhupada est sans doute celui de l'être vivant en proie au désir de dominer la nature. Ça, si vous écoutez des classes de Prabhupada, là, ça revient souvent sur le tapis. Alors, comment est-ce que Prabhupada met un terme à ce désir de dominer la nature? Comment est-ce que Prabhupada donne la solution pour ça?
En mettant tout au service pour Krishna.
Oui. Ça, c'est une bonne réponse. Mais avant de mettre tout au service de Krishna, il y a une autre explication et Srila Prabhupada la donne. C'est très simple comme réponse. Alors, vous pouvez trouver cette réponse-là dans quand Prabhupada fait un commentaire sur le Mahamantra, le chant du Mahamantra, le chant Hare Krishna. Et dans son explication, Srila Prabhupada dit que quand on chante Hare Krishna, ceci peut couper court immédiatement à ce désir de dominer la nature, aussitôt qu'on chante Hare Krishna. Alors, quand on chante Hare Krishna, comment est-ce qu'il faut chanter Hare Krishna? Est-ce qu'il y a une façon particulière?
Avec l'écoute, puis en étant détaché de toute attente.
Oui. Chanter Hare Krishna en essayant d'éviter les 10 offenses au Saint-Nom. Alors, une des offenses, c'est justement de chanter sans attention. Alors, ce qui veut dire aussi, chanter avec attention, là, ce n'est pas seulement, mettons, comme une syntonisation du son. Tu sais, comme par exemple, si moi je veux écouter la radio, je vais m'assurer que ça soit syntonisé bien comme il faut pour pas qu'il y ait d'embrouille ou de bruit inutile lors de l'écoute du son. Mais chanter avec Krishna avec attention, ce n'est pas juste « Ah, j'entends le son ». Il y a un peu plus que ça. Il y a un peu plus que ça, même si c'est pas dit, c'est de savoir quand on chante avec Krishna, là, on doit savoir que c'est une prière à Krishna. On doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Si je chante avec Krishna, je prie à Krishna, « S'il vous plaît, ô Seigneur Krishna, veuillez m'engager dans votre service. Ô énergie divine, énergie de Krishna, qui est Radharani, Hare Hare, veuillez m'engager à votre service. Alors, si je suis conscient que c'est cette prière-là que je suis en train de prononcer ou de chanter, comment est-ce que je peux chanter sans intention? Alors, faut faire attention quand on chante avec attention. Faire attention à ce que l'on dit. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif. Il faut porter attention. Et, disons, chanter n'importe quoi. Pas n'importe quoi, je veux dire n'importe comment. Oui, quelqu'un va avoir un bénéfice parce que le nom de Krishna, comme on a dit à un cours, là, dernièrement, le nom de Krishna va agir pareil. Mais c'est mieux de chanter, comme qu'on dit aussi, chanter avec dévotion, avec prière et dévotion. Alors, être attentif de un, de deux, savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, et puis être sincère. Comme Prabhupada, il dit ça souvent pour les dévots qui sont sincères. Prabhupada parle, il dit, ça je l'ai déjà dit souvent, dans la conscience de Krishna, il y a juste une qualification, c'est la sincérité. C'est ça qui fait toute la différence. Si, par exemple, on fait des offenses, et on a beau faire du mieux qu'on peut, mais il y a bien des chances qu'on va faire des offenses à gauche et à droite, plus ou moins involontairement ou volontairement. Mais parce que le dévot est sincère, Krishna passe l'éponge, il pardonne, et puis il donne quand même sa miséricorde au dévot ou la dévote en question. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? OK. Alors, on va continuer. Virginie, est-ce que tu voudrais lire? Il n'y a pas de micro, là.
Voilà. Je reprends le texte. On en était donc...
On est rendu à la ligue 11, Tamal Krishna.
Voilà, Tamala Krishna. Nous lisons un extrait de la Bhagavad Gita telle qu'elle est au chapitre intitulé Karma Yoga, page 104, verset 31. Ceux qui remplissent leur devoir selon mes instructions et suivent cet enseignement avec foi, sans envie, se libèrent des chaînes de l'action intéressée. Teneur et portée. Cette injonction de Dieu, la personne suprême Krishna, est l'essence de toute la sagesse védique. Prabhupada. Oui, qu'est-ce que la sagesse védique? Vaidehi cha sarve aham eva radhya. Bhagavad Gita 15.15. Je me tiens dans le cœur de chaque être et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Le but de tous les Védas est de me connaître. En vérité, je suis celui qui connaît les Védas et celui qui composa le Vedanta. La connaissance. Veda signifie connaissance. Qu'est-ce que la connaissance parfaite? La connaissance parfaite, c'est que ma position constitutive est de servir. Trouver un seul homme en ce monde qui puisse dire « je ne suis pas un serviteur ». Y a-t-il un homme ou une femme dans ce monde, dans cet univers, qui ne soit pas un serviteur? L'un d'entre vous peut-il dire qu'il n'est pas un serviteur? Y a-t-il quelqu'un? Tout le monde est un serviteur. Quelqu'un est le serviteur de la société, quelqu'un est le serviteur du pays, quelqu'un est le serviteur de sa femme ou de sa famille, ou de quelques chats et de chiens. Finalement, on doit être un serviteur. Donc, lorsqu'un homme arrive à la connaissance, puisque je sers, pourquoi ne pas servir le suprême? Telle est la connaissance. Telle est la perfection de la connaissance. Personne ne peut s'esquiver de son statut de serviteur. Soit vous êtes un serviteur de Dieu, soit vous êtes un serviteur de chien. Vous devez être un serviteur. Ainsi, une personne intelligente, une personne sage, préfère être le serviteur de Dieu plutôt que d'être le serviteur d'un chien. On ne peut s'y soustraire, on ne peut pas. Par contre, si l'on est maître, personne n'est maître. Tout le monde est serviteur. Par conséquent, ceux qui remplissent leurs devoirs selon mes instructions, les instructions de Dieu, et suivre cet enseignement avec foi, sans envie, se libère des chaînes de l'action intéressée. Dès que vous devenez le serviteur de quelqu'un d'autre que Dieu, alors vous êtes lié au fruit de vos actes. Vous avez une obligation envers Dieu. Cette obligation existe, mais elle n'est pas une cause d'asservissement au fruit de ses actes. Être serviteur de Dieu ne constitue pas une forme d'asservissement, mais être le serviteur d'un chien est une forme d'asservissement. Ainsi, une personne intelligente est celle qui est consciente que je suis un serviteur. Alors pourquoi ne pas être le serviteur du plus grand? Tout comme une personne veut travailler au compte du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement est un grand établissement. Un grand établissement, on y trouve de nombreuses occasions de carrière. Ce n'est pas minable comme emploi. De même, pourquoi ne pas être le serviteur du gouvernement suprême? Telle est la conclusion parfaite de la connaissance. Tant que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, cela signifie que nous sommes déficients en matière de connaissance. Et la connaissance parfaite consiste à se faire serviteur de Dieu. De toute façon, vous ne pouvez pas vous y soustraire en n'étant pas un serviteur de nature. Tout le monde doit être un serviteur, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Continuez.
Oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui. Sur le serviteur, si on sert un chien, mais pas qu'on le voit comme un chien, comme on voit comme on sert avec amour que c'est une entité qui a un corps de chien, mais le servir pas comme le servir là, mais quand on lui donne quelque chose, on le donne avec cet état d'esprit de conscience, tu sais, que même un voisin ou n'importe qui, on les sert toujours en étant conscient que c'est une parcelle de Dieu.
Disons que ça, ce genre de service-là, dans mon petit livre à moi, comme on dit, c'est le genre de service que ça peut être très dangereux. Dans le sens que, inévitablement, les entités vivantes s'attachent l'une à l'autre. Alors, l'humain va s'attacher au chien, et s'il meurt en pensant au chien, ben, c'est un corps de chien qui l'attend dans sa prochaine vie. C'est la loi de la nature qui veut ça. Alors, on a l'exemple d'un Srimad Bhagavatam de Maharaj Bharat. Dans sa vie suivante, il est devenu un cerf parce qu'il s'est attaché à un cerf pendant qu'il s'était exilé dans la forêt. Alors, ça, c'est l'exemple qui est donné. Alors, il faut faire très attention. Vaut mieux, ça c'est mon humble avis là, faut mieux garder ses distances. Moi personnellement, des fois on me demande si j'aimerais ça avoir un animal domestique, je dis toujours non, parce que je sais on va s'attacher, et puis j'aimerais pas gâcher la forme humaine de vivre simplement pour l'amour d'un chien ou l'amour d'un oiseau ou je sais pas quoi là. Alors, faut garder son mental sur Krishna. Et oui, effectivement, la Bhagavad Gita dit l'humble sage voit d'un œil égal le chien, le mangeur de chien, l'éléphant, le brahmana érudit. Il les voit d'un œil égal. Alors, je pense qu'on peut s'en tenir là. Et puis, ça va être beau. Ça, c'est mon humble opinion, là, personnellement. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? OK. Alors, Srila Prabhupada, dans la classe que nous lisons, là, il explique avec détail, suffisamment de détails, pour nous convaincre qu'on n'est pas Dieu. On est simplement un serviteur par nature. Peu importe notre position, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement rendre service. Alors, de réaliser qu'on est simplement un serviteur, ça c'est déjà une grande chose. Parce que si on est serviteur, puis qu'on réalise qu'on est un serviteur par nature, qu'est-ce qui arrive au désir de vouloir dominer dans tout et n'importe quoi et n'importe qui?
Ben, on est conscient que ça ne nous appartient pas.
Il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu, à Krishna. Alors, notre position, c'est rendre service. Alors, vu que chaque être vivant est une partie, une parcelle de Krishna, et un dévot qui veut servir Krishna, ben, automatiquement, il sert tous les êtres vivants. Alors, il va avoir une vision spirituelle, puis il essaye de servir au niveau spirituel, et Prabhupada explique que ça inclut le matériel. Alors, si on revient à l'exemple, là, si on a un chien et on veut prendre soin du chien, ben c'est sûr que si tu as un chien, il faut que tu le nourrisses. Alors, tu vas le nourrir avec quoi? La nourriture pour chien qui est faite avec de la viande et je sais pas quoi encore. Ou tu vas t'essayes de faire du chien un dévot, tu lui donnes juste du prachat. Alors, il va être un chien végétarien. Peut-être qu'il va s'ennuyer, là, mais lui, il ne sait pas, mais toi, tu le sais que c'est pour le bien de son âme spirituelle. Alors, évidemment, il va peut-être y avoir un vétérinaire, une de ces bonnes journées, qui va dire, « Hey, vous nourrissez pas bien votre chien. Il a besoin de ci, il a besoin de ça. Il manque des vitamines, je sais pas quoi. » Mais ça, c'est le package deal pour avoir un chien. Ça vient avec, puis des fois, le chien, ben, c'est comme un être humain, il a des maladies ou des blessures, et puis, ce n'est pas donné de prodiguer des soins à un animal. Des fois, ça peut coûter très cher. Alors, il y a des gens qui, malheureusement, prennent la solution facile, c'est de faire euthanasier l'animal, puis bonsoir la visite, le problème est réglé. Mais ça, c'est pas une bonne façon de faire si c'est pas absolument nécessaire. À ce moment-là, on intervient dans le karma de cet être vivant-là. Et comme Prabhupada explique, si on tue un animal, disons, avant son temps, cet animal-là, un, doit revenir pour combler le temps qu'il n'a pas pu passer dans le corps qu'il avait. Puis, au niveau karmique aussi, celui qui l'a tué, ben, va être tué par l'animal qui l'a tué. La action et réaction. Alors, dans un cas comme dans l'autre, là, je vois pas beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste un autre petit, on est des serviteurs du Seigneur, puis sur d'autres points, ils disent, on est une part égale en qualité comme le Seigneur.
Oui.
C'est comme, tout mon corps est mis au travail pour l'estomac. Mais mon corps est égal à moi, veut dire, il y a le bonheur que j'ai, il le ressent. C'est un peu complexe, je veux dire, le serviteur puis être à part égale au Seigneur.
Non, attends une minute. Là. Tu la comprends mal, celle-là. Quand c'est dit, là, premièrement, la part égale avec le Seigneur, là, ça peut pas être égal parce que Krishna est le tout complet et la partie du tout complet peut pas être égale au tout complet. Ça, c'est philosophique, là. Alors, c'est comme, mettons, dire que la feuille dans l'arbre est égale à l'arbre. Ça fait pas de sens dans un. Alors, faut comprendre quand Prabhupada dit que l'âme est en qualité une avec Dieu, c'est au niveau spirituel. Alors, Krishna est Satchid Ananda Vigraha. Et l'âme spirituelle aussi est Satchid Ananda Vigraha, mais elle est infiniment petite, elle est infime. Tandis que Krishna, lui, il a l'éternité, la beauté, toutes les opulences, mais à l'infini. Alors, l'âme spirituelle n'est pas égale à Krishna, elle ne sera jamais égale à Krishna. mais en qualité, elle est égale. Comme Prabhupada dit, la goutte d'eau de l'océan est égale en qualité par rapport à l'océan. C'est que la goutte d'eau, elle a une petite quantité de sel, puis une petite quantité d'eau, puis comme c'est dit, H2O. Tout petit, comparé, c'est rien comparé à l'océan, la quantité de sel et d'eau qu'il y a dans l'océan. Alors, dans cette façon-là, l'âme est de nature, elle est égale en qualité, mais pas en quantité. C'est comme ça qu'il faut voir ça, là.
Comme on est un petit mouvement dans une horloge, je veux dire, mais on est égal en matière de l'horloge, comme en métal, mais on a un job à faire. C'est ce petit mouvement-là de l'horloge. Là.
Ouais, mais la vie conditionnée, Prabhupada donne aussi cet exemple-là de l'horloge. Lorsque un rouage de l'horloge est, disons, enlevé de l'horloge, ce petit rouage-là ou engrenage-là sert absolument à rien. Il sert à quelque chose lorsqu'il est intégré dans l'horloge. En dehors de l'horloge, c'est fini. Ça sert à rien. Alors, comme Prabhupada donne un autre exemple, c'est comme la main qui est coupée du corps. Si la main est coupée du corps, ça a l'air d'une main, mais cette main coupée du corps est complètement inutile. Elle sert absolument à rien. Tu peux rien faire avec ça. Alors, il faut que la main soit rattachée au corps pour que la main ait une utilité, son utilité normale, qui est de servir justement le corps, puis servir le corps, comme tu as si bien dit tantôt, ben, ça arrive que c'est servir l'estomac, finalement. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Virginie, s'il te plaît. Pas Virginie, Ananda, excusez.
Oui, avec plaisir. Continuez. Tamala Krishna. Puisque les Védas sont éternels, la conscience de Krishna l'est également. Il faut avoir une foi inébranlable en cet enseignement et ne jamais envier le Seigneur. Beaucoup de philosophes commentent la Bhagavad Gita sans avoir la moindre foi en Krishna. Il leur est donc impossible de se libérer des répercussions de leur acte. Par contre, un homme ordinaire, doté d'une foi inébranlable dans les injonctions éternelles du Seigneur, même s'il est incapable de les suivre, s'affranchit des chaînes du karma. Il se peut qu'un nouveau venu dans la conscience de Krishna ne se plie pas immédiatement à toutes les recommandations du Seigneur. Mais s'il n'éprouve aucune réticence à leur égard et agit sincèrement, sans se laisser déconcerter par l'échec et sans perdre espoir, il sera élevé au stade de la pure conscience de Krishna. Prabhupada. Oui, au début, il peut y avoir quelques échecs. C'est tout à fait naturel. Il suffit qu'un enfant essaie de se tenir debout pour qu'il tombe. Mais cela ne signifie pas qu'il doive abandonner l'idée. Il lui faut continuer. Un jour viendra où il marchera parfaitement. Ainsi, nous ne devrions pas abandonner l'idée d'essayer de servir le Suprême. Vous serez peut-être imparfait au début, mais si vous persévérez, un jour viendra où vous serez parfaitement conscient de Krishna. Tamala Krishna. 32. Mais ceux qui, par envie, négligent mes enseignements et ne les suivent pas régulièrement, sont tous illusionnés et dénués de connaissances. Leur marche vers la perfection est vouée à l'échec.
Jai, merci. Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le petit bout qui a été lu? Alors, Prabhupada, il dit, c'est important ce point-là, à savoir qu'il peut y avoir des chutes. Là, Prabhupada, il dit, à la page 173, ligne 37, il se peut qu'un nouveau venu dans la conscience de Krishna ne se plie pas immédiatement à toutes les recommandations du Seigneur. Mais s'il n'éprouve aucune réticence à leur égard et agit sincèrement, sans se laisser déconcerter par l'échec et sans perdre espoir, il sera élevé au stade de la pure conscience de Krishna. Alors, est-ce qu'on a des exemples de ça? Ne répondez pas tous en même temps, là. Est-ce qu'on a expérience d'avoir, de connaître des personnes qui justement sont des personnes nouvellement venues à la conscience de Krishna, mais qui ne se plient pas immédiatement à toutes les recommandations du Seigneur?
Oui, c'est parce qu'ils sont pas encore à 100% convaincus de qu'est-ce qui présente cette philosophie. Ils ont des doutes.
Ça, c'est une explication. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Alors, si on creuse un petit peu, pour suivre la conscience de Krishna, là, quelqu'un qui dit, OK, moi, je veux adopter la conscience de Krishna. Et en particulier, si la personne dit, ah, moi, j'irai essayer ça, aller au temple. Adopter la conscience de Krishna, c'est pas, disons, seulement réservé à des dévots qui sont au temple. On veut pas dire ça, là. C'est pas ça qu'on, mais si quelqu'un dit, ah, moi, je veux aller au temple. Ou si on dit, ah, moi, je veux adopter la conscience de Krishna, mais je veux rester chez nous. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose, dans le sens que, en ce qui concerne les principes régulateurs, ben, ils sont là, les principes régulateurs. Tu peux pas les éviter. Que tu sois dans le temple ou pas dans le temple, il y a des principes régulateurs à suivre. Alors, la personne, elle peut avoir certaines difficultés à suivre les principes régulateurs, pas pour question de philosophie nécessairement, mais simplement par, on peut dire, mauvaise habitude. Et même lorsqu'un dévot ou une dévote est initié, ça ne veut pas dire qu'il est, disons,
À l'abri, il n'est pas à l'abri, en fait.
Il n'est pas à l'abri, mais on peut dire aussi qu'il n'est pas sorti du bois non plus.
C'est ça.
Dans le sens que le dévot peut être initié, mais les shastras, c'est pas moi qui le dis, là. Les Écritures disent, la première étape pour la vie spirituelle ou la conscience de Krishna, un, c'est Shraddha. Shraddha veut dire la foi, avoir un intérêt pour la vie spirituelle. Deuxièmement, l'association avec des personnes qui sont engagées sur la voie de la conscience de Krishna. Troisièmement, accepter un maître spirituel et recevoir initiation du maître spirituel. Ça, c'est la troisième étape. Mais la quatrième étape est appelée anartha nivritti. Ça veut dire se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes. Alors, il y a des mauvaises habitudes qui sont grossières et des mauvaises habitudes qui sont subtiles. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, Prabhupada écrit qu'un dévot devrait au moins être affranchi des mauvaises habitudes qui sont grossières. Les subtiles, ça viendra au fur et à mesure. Et des fois, un dévot peut, il est initié, il pratique la conscience de Krishna et s'apercevoir en cours de route qu'il y a tel ou tel attachement subtil dont il n'était pas nécessairement absolument conscient. Jusqu'à temps que ça lui arrive en pleine figure. Oh, regardons ça. J'ai tel attachement. Est-ce que c'est pas comme ça que ça se passe?
Tout
Ça se
à
passe
fait.
pour bien des dévots, c'est bien dévots, dévotes. Ça peut pas faire autrement que ça arriver comme ça. Alors, à titre d'exemple pratique, des dévots, dévotes, des fois, ne s'entendent pas. Pourquoi ils s'entendent pas? Pourtant, il y a un maître spirituel, il y a Srila Prabhupada, il y a le temple, il y a la philosophie, tout ça. Puis des fois, ils s'entendent pas. Puis là, va voir pour le fun. Pourquoi ils s'entendent pas? Tu peux mettre le, il y a bien des chances, si tu mets le doigt dessus, c'est parce qu'ils ont un attachement pour telle chose ou telle chose. Ils sont pas capables de surmonter tel ou tel attachement. Alors, je vais donner un exemple, là. Sans nommer personne. J'ai pas d'affaire à nommer qui que ce soit ou à viser qui que ce soit. Mais on donne un exemple fictif. Supposons tu mets dévot, dévote. Ça, c'est bien quand c'est mixte, là. C'est pas juste des gars ou des filles. Tu mets les deux ensemble. Tu les mets dans la cuisine de Krishna. Puis là, mettons qu'ils vont faire des biscuits pour Krishna. Puis là, un ou l'une regarde l'autre, puis l'autre pense dans son mental, il pense, moi, c'est pas comme ça que je fais ça. Ma façon de faire est meilleure que l'autre. Et pourtant, les deux cuisinent pour Krishna. Et ça, c'est des attachements matériels. Tu veux dire? Alors, un, c'est peut-être le genre, il va cuisiner, mais il a l'habitude de bougonner tout le long qu'il cuisine. Tout ce qui va tout croche dans la cuisine, c'est où est-ce qu'il est le pot, où est-ce qu'il est l'ustensile, donne un coup de pied à gauche. Patati patata, pourquoi que la cuisine est sale comme ça? Qui a pas lavé la vaisselle hier soir? C'est tout à fait possible dans le contexte de la cuisine au temple qu'un dévot, pour une raison ou pour une autre, était malade, puis le festin du dimanche, là, ils l'ont pas fait la vaisselle. Puis faire la vaisselle au temple, c'est quelque chose qui se finit pas avant de 9h30 le soir, si c'est pas plus tard. 9h30, 10h30, 11h, tellement il y a de la vaisselle à faire. Alors, si un dévot doit cuisiner malgré ça, puis ça donne que c'est pas sa journée, cette journée-là en plus, ben là, tu vas en entendre parler. Mais c'est quoi ce genre de comportement-là? Le dévot est pas assez détaché. Il y a quelque chose qui tourne pas rond en quelque part. Alors, Krishna va montrer au dévot que, tiens, c'est toi le dévot, là? Quelqu'un qui se dit un dévot? Ben, pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Pourquoi tu n'es pas capable de t'entendre avec des dévots ou des dévotes quand vous cuisinez ensemble? C'est des petites choses comme ça qui montrent que quelqu'un a du chemin à faire. Ça fait partie de la vie spirituelle que de mettre de l'eau dans son vin. Mais ça, à quoi ça se résume finalement? C'est comme on dit en anglais. Oui?
Un manque de maîtrise d'essence.
Oui, mais spécifiquement par rapport au cours d'aujourd'hui?
Mais on est dominé par la matière, en fait, la matière prend sur nous.
Oui?
Elle nous rend de mauvaise humeur, insatiable, alors qu'on sait, on connaît déjà, on sait qu'on ne doit pas passer par là, mais on y est soumis, en fait.
Oui, mais à cause de quoi?
Même du manque de connaissances.
On a manqué le bateau?
Le manque de connaissances.
Manque de connaissances, manque de réalisation. Comme on a dit ici au tout début, première ligne, le désir de dominer la nature, le désir de dominer la matière, qu'on veut que ça se passe à
Comme on veut.
notre goût. Mais ça c'est fait d'une façon que ça ne se passera pas à notre façon. C'est fait comme ça. C'est comme les gens, par exemple, tu regardes, mettons, Si tu regardes les publicités, dans les publicités, est-ce qu'il y a du monde qui sont vieux dans les publicités? En général?
C'est rare.
C'est
toi,
ça.
tu fais une publicité pour les vieux.
Il n'y a pas grand publicité pour les vieux. C'est toujours
C'est eux
avec
qui
des jeunes.
C'est eux qui dépensent, c'est les jeunes.
Oui.
En
Et
France, il y a
les...
des publicités pour les vieux, pour des fauteuils, pour bien regarder la télé, bien confortable, où on monte et on descend, des trucs pour masser les pieds quand on a les... Ah non, ils savent cibler, ils sont forts.
Oui, ils savent cibler une certaine clientèle. Alors, il y
Ah.
a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les vieux, 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 etc., etc. Mais souvent, en général, s'ils veulent viser, donner le maximum, disons, d'attrait pour quelque chose, ils vont prendre une jeune fille, une jeune femme, puis là, elle va présenter le produit. Alors, les motocyclettes, là, les Harley-Davidson, ils vont te mettre une fille en bikini, puis elle va être donc. Puis en général, il n'y a pas de fille en bikini qui roule une Harley-Davidson. Ça n'existe pratiquement pas, et ce n'est pas pratique non plus. Mais pour des Hells Angels de ce monde, amène-la, on va la prendre en plus s'il faut. Mais ça, c'est l'art de la publicité. Et c'est beaucoup basé sur l'attrait sexuel. C'est une science, la publicité. Faire mordre à l'hameçon les êtres humains. Et puis les êtres humains, ben, ils sont pas mieux que d'autres êtres vivants dans d'autres espèces. Ils sont attirés par le sexe opposé et puis ça fonctionne. Ça marche? Est-ce que des... Alors, on revient toujours à ça. Le désir de dominer. Alors, si on veut, mettons, contrecarrer ce désir de domination, qu'est-ce qu'on devrait connaître?
À qui tout appartient.
Oui. Mais un mot seulement. Juste un mot.
Krishna.
Oui, mais un autre mot pour Krishna. Krishna est le dominateur de tout ce qui existe. Alors, nous, on est quoi? On est dominé. Et si on veut, disons, imiter le dominateur suprême, on va se planter royalement.
Non,
Alors, c'est pourquoi, pardon?
faut le servir.
Oui. Et c'est pourquoi des grands dévots de Krishna, ils en ont rien à cirer de cette mentalité-là. Ils sont complètement affranchis de cette mentalité-là. Est-ce que vous connaissez des exemples de ça? Un grand dévot, Haridas Thakur, à un moment donné, il a été arrêté et il a été mis comme... Il a passé à un tribunal. Et puis, lui, il chantait Hare Krishna, il était complètement indifférent à ce qui se passait autour de lui. Et puis... Il était complètement transcendantal. Et à la fin de tout ça, il a été jugé d'être battu sur 22 marchés publics. Et ils l'ont fouetté. Puis les bourreaux voyaient que Haridas Thakur ne mourrait pas. Il était supposé mourir, mais il ne mourrait pas. Alors ils disent à Haridas, Haridas, là, si tu meurs pas, c'est nous qui allons être mis à mort. Alors, tu ferais mieux de mourir. Alors, Haridas Thakur, il dit, OK, si vous voulez que je meure, je vais mourir. Mais il n'est pas mort. Il est simplement tombé en samadhi, en extase complète. Samadhi veut dire complètement indifférent qu'est-ce qui peut arriver au corps matériel. Alors, il est complètement inconscient. Et là, ils ont jugé que, ah, il est mort. Alors, ils ont pris son corps, ils l'ont balancé dans le Gange. Et puis, Haridas Thakur a été transporté puis, par le Gange, puis il s'est ramassé sur la berge à un autre endroit, puis il est pas mort. Alors, les grands dévots de Krishna ont la conscience ailleurs que justement cette implication de dominer la nature matérielle. Et il y a un verset dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 6 de Bhagavad Gita, c'est un des signes d'être arrivé à la transcendance. Dans le chapitre 6, verset 22-23, on va essayer de le trouver. Chapitre 6, 22-23. Là, ça décrit les caractéristiques de quelqu'un qui est vraiment arrivé à la transcendance. Celui qui, il y a d'autres versets que celui-là, là, mais celui qui, par la pratique du yoga, parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle, connaît le niveau de perfection qu'on appelle samadhi ou extase méditative. Cet état se caractérise par la faculté de percevoir l'être suprême avec un mental pur et de trouver la joie en lui. Ainsi, à travers ses sens purifiés, il se trouve constamment immergé dans un bonheur transcendantal infini. Cette perfection atteinte, il ne s'écartera plus de la vérité, sachant que rien n'est plus précieux. Imperturbable, même au cœur des pires difficultés, il se libère définitivement des souffrances nées du contact avec la matière. Alors, il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita où c'est dit, par exemple, que celui qui est une âme réalisée est indifférent que ce soit la pierre ou de l'or, ça fait aucune différence pour lui. Alors ça aussi, c'est un signe. Pourquoi? Parce que le dévot de Krishna, quelle est sa mission? Quelle est la mission d'un dévot?
Faire connaître aux autres la conscience de Krishna?
Oui, mais disons, si on parle... Indépendamment de faire connaître la conscience de Krishna aux autres, sa mission personnelle.
De servir Krishna?
Oui, servir Krishna.
Madhavananda, le son est coupé.
Madhavananda, ton micro est...
De se libérer de ce monde matériel.
Exactement. Mmh. Sa mission, c'est de retourner à Krishna. Dans le monde spirituel, on a lu ça aujourd'hui, là. À savoir de retourner, je sais pas où exactement, là, mais ça fait partie de la classe de Prabhupada, qui est de retourner vivre avec Krishna, soit à Vaikuntha Loka, ou soit Krishna Loka. Alors, ça c'est la mission du dévot. Alors, si c'est ça la mission du dévot, qu'est-ce qu'il y a d'important à défendre ou à promouvoir dans le monde matériel? Là, quelqu'un peut dire, ben oui, il y a les valeurs de la conscience de Krishna, il y a répandre la conscience de Krishna, oui. Tant aussi longtemps qu'on a les deux pieds et qu'on est en bonne santé, oui, ça fait partie, les œuvres missionnaires de la conscience de Krishna. Mais en bout de ligne, est-ce que le dévot devrait rester dans le monde matériel?
Si c'est la volonté de Krishna seulement.
Ouais, c'est ça.
C'est
la volonté de Krishna, mais la volonté de Krishna, c'est qu'il revienne au monde spirituel aussi. Et même indépendamment de dire, ben c'est ça que Krishna veut, mais à court terme, dans l'immédiat, là, tout de suite, pas à la fin de ses jours, dans l'immédiat, qu'est-ce que Krishna veut de la part d'un dévot?
Qu'on lui offre notre vie avec amour.
Oui, mais spécifiquement, avec un petit peu plus de détails, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, Madhavananda. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita où Krishna dit, « Emplis toujours de moi ton mental. Manmana bhavamad bhakto, deviens mon dévot. Madhyaji mam namaskuru, donne-moi tes hommages, voue-moi ton adoration, et ainsi étant pleinement absorbé en moi, certainement tu viendras à moi. » Alors ça, c'est ce que Krishna veut à chaque instant de notre vie, c'est qu'on pense à lui, qu'on nourrit notre mental, qu'on remplit notre mental de la pensée de Krishna. Alors, si on pense à Krishna, on fait un effort de penser à Krishna constamment, alors, il n'y a aucun doute qu'au moment de la mort, on va penser à Krishna encore. C'est une question de pratique. Ça, c'est très pratique. Alors, si le dévot pense à Krishna constamment, qu'est-ce qui se passe par rapport à son attachement pour Krishna?
Il va grandir.
Exactement. Son attachement pour Krishna va aller en croissant. Et c'est la même chose que si on a parlé au début. Si la personne se fait serviteur d'un animal, son attachement pour l'animal va être là. Et s'il quitte son corps en pensant à cet animal-là, c'est sûr qu'il va avoir un corps comme ça dans la prochaine vie. Mais lui, il ne le sait pas. Et c'est le même principe, le principe d'attachement. Alors, si on s'attache à Krishna en pensant à Krishna, on va retourner à Krishna. Alors, pour penser à Krishna continuellement, ben, il faut avoir un cœur aussi pur que possible. Suivre les principes régulateurs, chanter Hare Krishna régulièrement, chanter les tours régulièrement, et puis être conscient de Krishna, rendre des services pour Krishna, servir le maître spirituel, etc., etc. Est-ce que d'autres questions, commentaires?
Juste un petit.
Oui.
S'abandonner à la volonté de Krishna, un peu, ça serait comme Krishna, c'est l'écrivain du scénario universel de tout là. Et si on fait sa volonté, on lit son script puis on fait selon son script. Maintenant, il y a le jeu, l'ego de l'être humain qui voudrait ah peut-être c'est pas bon, moi je voudrais le faire comme ça. C'est là qu'on rentre dans le monde de dualité. C'est quand le jeu prend la place puis il veut changer qu'est-ce que Krishna a écrit pour le scénario que lui a monté et tout ça. C'est un peu ça?
Pas tout à fait, dans le sens que oui, il y a cet aspect-là, mais comme tu dis, le je puis le ego. Mais un dévot, lui, c'est comme je vais donner un exemple là, qui est juste comme ça, pratique. C'est comme vous faites venir un électricien chez vous. Vous avez quelque chose d'électrique à faire réparer. Puis là, vous restez à côté de l'électricien, là, puis vous le regardez faire. Alors, il y a bien des chances que l'électricien va sortir des fils d'une certaine connexion. Puis là, il va couper le bout des fils. Puis là, il va enlever du fil qui enrobe le métal. Puis là, il va refaire la connexion. Puis là, tout va être beau. Alors, l'ego qui se met dans le chemin, justement, puis qui nous implique dans le monde matériel, ça, il faut couper court. Mais on peut pas couper court artificiellement. Mais on peut lui fermer la trappe, par exemple. On peut lui couper le sifflet. dans le sens que on a juste à se connecter au maître spirituel, à ses instructions, pas besoin de spéculer. Et puis, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le faux ego. Alors, comme par exemple, mettons un dévot du temple. On donne un exemple, un dévot du temple. Les dévots du temple, eux autres, ils marchent sur une cédule. Alors, à 8 heures, c'est comme ça. À 8h30, c'est comme ça. À 9h30, c'est comme ça. À 10h, c'est comme toute la journée comme ça, du matin au soir. De 3h le matin, 4h, du moment qu'il se lève jusqu'à temps qu'il se couche, il y a un horaire qui est prévu pour les dévots du temple. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se cassent pas la tête, ces dévots-là, là. Ils font simplement suivre l'emploi du temps. Alors, comme par exemple, c'est dit, bon, ben, de 10h30, quand j'étais nouveau dévot, c'était comme ça, là. 10h30 jusqu'à 2h, on va chanter. Sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Alors, peu importe qu'il fasse beau, peu importe la température, on va chanter. Alors, on quitte le temple à 10h30, puis on revient à 2h au temple. Et on chante. Et qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait un tremblement de terre, on va aller chanter. Tellement c'était vraiment coulé dans le béton. Puis l'après-midi, c'est la même chose. À 3h, on s'en va, on quitte le temple. Puis on chante jusqu'à 6h le soir. C'était l'horaire qu'on avait. Aujourd'hui, les dévots de temple, bon, peut-être que c'est différent, là. Mais si t'es un dévot de temple, il y a un horaire à suivre. Il y a un engagement qui est prévu à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est la vie de temple. C'est une vie bien réglée. Comme tel. Alors, si on n'est pas un dévot de temple, on peut s'arranger pour avoir un certain emploi du temps, faire des choses pour Krishna. Et ça revient au même dans la mesure où ce que l'on fait, on sait que c'est sanctionné par les instructions du maître spirituel. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, c'est pas fait par faux égos. Est-ce que c'est correct comme ça? Alors voilà. C'est le faux ego, là, faut pas trop y donner de place. Ou comme Srila Bhaktisiddhanta disait, le mental, il faut y donner 100 coups de balai le matin, puis un autre 100 coups de balai le soir. Juste pour dire qu'on n'écoute pas le mental. Alors, c'est quoi que t'écoutes? Si t'écoutes pas ton mental, il faut que t'écoutes quelque chose. Alors, les instructions du maître spirituel, il y a toujours quelque chose à faire pour servir Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Où est-ce qu'on était rendu? OK. Virginie, veux-tu lire? OK, on a rendu à ligne 5.
Ouais, c'est ça, ligne 5. Tamala Krishna, 32. Mais ceux qui, par envie, négligent mes enseignements et ne les suivent pas régulièrement sont tous illusionnés et dénués de connaissances. Leur marche vers la perfection est vouée à l'échec. Prabhupada. Oui, si quelqu'un... Oh, pourquoi devrais-je servir Dieu? Si quelqu'un dit, oh, pourquoi devrais-je servir Dieu? Très bien, alors vous devrez servir un chien. C'est tout, il se fourvoie, il ne sait pas qu'il doit servir quelqu'un. Sa position constitutive est comme ça, il ne peut pas s'y soustraire. Ainsi donc, s'il refuse de servir Dieu, Krishna... Alors, il doit servir Maya l'illusion en espérant passer maître. Tout comme dans votre pays, le président Johnson était le maître, en fait, il n'était pas le maître, il était le serviteur du pays. Maintenant que le pays l'a remercié, il n'est plus le maître. Nos tentatives de maîtrise dans ce monde matériel sont semblables. En fait, nous sommes des serviteurs. Nous, mais nous pensons être des maîtres. Dans une famille, je suis le serviteur de ma femme, je suis le serviteur de mes enfants, je suis le serviteur de mes domestiques, mais je pense être le maître. Je suis le maître de cette famille, je suis le maître de ce pays, je suis le maître de cette société. Les personnes n'est maître. La Chaitanya Charitamrita dit donc, le seul maître est Krishna. Ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Britya. Chaitanya Charitamrita a dit 5.142. Le Seigneur Krishna seul est le maître suprême et tous les autres sont ses serviteurs. Il danse comme il le veut bien. Seul Krishna ou Dieu est le maître et tous sont des serviteurs. Yare, Yache, Nachaya, Setaiche, Kare, Nehitya. Chaque serviteur danse selon la volonté du suprême. C'est tout. Personne n'est maître. Donc c'est une fausse conception d'être maître et appeler Maya l'illusion. Personne n'est maître. Par conséquent, celui qui n'accepte pas d'être le serviteur de Dieu est fourvoyé. Il est dit, mais ceux qui, par envie, il est constitutionnellement un serviteur, mais il est envieux. Pourquoi devrais-je être le serviteur de Dieu? Je vais être Dieu. Vous voyez, tout le monde prétend, oh, tout le monde est Dieu, pourquoi? Quelle est l'utilité d'être le serviteur de Dieu? Je suis Dieu. Voilà certes de l'envie. Donc si quelqu'un refuse de servir Dieu et qu'il est envieux, Krishna dit, mais ceux qui par envie négligent mes enseignements et ne les suivent pas régulièrement sont tous illusionnés et dénués de connaissances. Bien qu'il soit un serviteur, il pense, je suis le maître, je ne sers personne. Voilà qui est Maya, une prise de position dénuée de toute connaissance.
Continue. Merci, merci. Alors, il y a un point tantôt qu'on a lu. Si quelqu'un est en connaissance, comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un est en connaissance? Quelqu'un a vraiment de la connaissance. On a lu ça tantôt. En tout cas, peu importe, là. L'idée, c'est que si quelqu'un a vraiment la connaissance, il va reconnaître sa position qui est d'être un serviteur de Dieu, un serviteur de Krishna. Ça, c'est le symptôme qu'il a la connaissance. Alors, ça, c'est bien important.
Ouais, c'est ce qui est dit là. De même, pourquoi ne pas être le serviteur du gouvernement? Telle est la conclusion. Tant que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, cela signifie que nous sommes déficients en matière de connaissances.
C'est ça, exactement.
Alors,
quelqu'un qui a vraiment la connaissance ne se prend pas pour quelqu'un, pour quelque chose d'autre que simplement le serviteur de Dieu, serviteur de Krishna. Et à titre de serviteur de Krishna, il se doit d'être très humble et de montrer l'exemple autant que possible. Alors, des fois, c'est dit, des dévots vont faire des hommages, puis là, ils vont dire, même des grands dévots, là, ils vont dire, avec toute l'humilité dont je suis capable. Alors, pourquoi? Parce que l'humilité, ça vient, la connaissance et l'humilité, là, ça va de pair. Un manque de connaissance et puis l'humilité, là, on repassera pour une autre journée. C'est trop facile de perdre la tête dans le monde matériel, d'être illusionné. Mais si on a au moins une certaine base de connaissance, ben, on va être humble. On voudra pas prendre, disons, comme on dit en québécois, monter sur ses grands chevaux. Alors, je sais pas si les Français disent ça, là, mais au Québec, ils disent ça, monter sur ses grands chevaux. Alors, un dévot de Krishna qui est humble, il laisse les chevaux à l'écurie. Il n'en a pas besoin. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je peux rajouter quelque chose. Si quelqu'un m'avait donné un exemple une fois sur l'humilité, je trouvais que c'était un bel exemple. C'est comme deux verres d'eau. S'il n'y en a pas un qui se baisse, c'est l'humilité. L'autre ne peut pas renverser la connaissance dessus. Alors, il faut être humble pour recevoir. Je trouvais ça intéressant comme exemple.
Oui. Alors, cette philosophie-là, elle est expliquée dans la Bhagavad Gita. Franchement parlant, là, si vous étudiez le verset de Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34, vous étudiez surtout le mot à mot de ce verset-là. Chapitre 4, verset 34, c'est Krishna qui dit, essayez d'apprendre la vérité. Attends, on va aller chercher. Chapitre 4. 4, verset 34. C'est un verset célèbre, c'est un des plus classiques de la Bhagavad Gita. Krishna dit, cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquière-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Alors, dans le mot à mot, on lit le mot à mot, tadvidi pranipatena. Pariprathena, ça veut dire en approchant un maître spirituel, pariprashnena, en le questionnant avec soumission, sevaya, en le servant, upadakshanti, ils t'initieront, ça c'est les âmes, ceux qui voient les âmes réalisées. Alors, l'attitude de soumission, puis l'attitude de rendre service, poser des questions pas des questions pour défier, mais avec justement cette attitude de soumission. C'est comme ça qu'on obtient le savoir, qu'on se rend ouvert. Tu sais, l'idée, c'est à quoi ça sert d'approcher un maître spirituel ou un grand dévot de Krishna si ce n'est pas pour l'écouter. Le problème avec justement des grandes conférences mondaines, là, c'est à part justement les micros qui sont mis devant tout le monde, là, comme là, il y en a des réunions à l'ONU puis Nations Unies, tout le monde a son micro, tout le monde a sa chaise, tout le monde a sa table, tout le monde peut écouter ou tout le monde peut entendre ce que quelqu'un dit. Mais c'est pas garanti. Écouter, c'est pas la même chose que entendre. Alors, il faut avoir une ouverture, une réceptivité, disons, d'avance, parce que justement, il y a une attitude de soumission au message qui va être prodigué. Alors, ça, c'est la vie spirituelle. Approcher un maître spirituel, poser des questions au maître spirituel et bien écouter ce qu'il a à dire et prendre ces instructions-là et puis les accepter comme son âme et son cœur. Ça, c'est la vie spirituelle, c'est la conscience de Krishna. Alors, c'est pas une écoute ordinaire, disons, écouter la radio ou la télé ou les nouvelles du jour. Ça rentre par une oreille puis le lendemain, c'est fini, là. C'est next, on passe à la suivante et puis c'est jamais fini. Mais les instructions du maître spirituel, c'est permanent. Une instruction d'un jour, c'est une instruction pour toujours, pratiquement parlant. Et même si la dite instruction est une instruction d'un jour, ben un dévot, un disciple peut toujours prendre plaisir à se rappeler l'instruction qu'il avait eue à l'égard de telle chose ou telle chose ou tel sujet, simplement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de venir au cours, c'est très apprécié.
Merci beaucoup à vous.
Oui, merci.
Merci beaucoup.
Et puis, on continue l'écriture. On est dans le mantra 5 de Upanishamrita. Ah, c'est pas mal extatique, comme on dit. Alors, on continue. Et puis voilà. Mais merci beaucoup. On se revoit au cours des Chopin Chat dans 2 semaines. Et puis
Non,
le.
mercredi.
Oui, mais
Mercredi.
j'ai dit où est Chopin Chat.
Ah oui, pardon, oui.
Ce cours-ci dans 2 semaines. Mais l'autre
Oui.
cours, Upadesha Milita, mercredi prochain. Même heure, même poste, à 19 h, mercredi qui s'en vient. Merci beaucoup.
Et
Hare
avec plaisir, tout le
Krishna.
monde. Merci
Allez.
beaucoup. Avec
Oui.
Mouna.
Bonne fin de
Bonne journée.
semaine. Merci. Allez,
Vous
bon.
aussi. Pareil à tous. Avec
Jai.
Krishna.
Merci. Allez, bon.
C'est bon.
Jai. Stop sharing. Voilà.
Combien de personnes?
3.
Oui.